étrange cette semaine à ceux qui sont venus prier dans cette chapelle de voir deux statues de la Vierge côte à côte et d'apprendre à mon vénéré cette semaine dans cette chapelle des Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve où repose le vénérable ange de Proust, son fondateur, on vénérait deux vierges différentes, Notre-Dame du Puy et Notre-Dame de Bonne Bénédicte. Comment comprendre ces images différentes de l'unique Vierge Marie, comme s'il s'agissait de personnes différentes? Notre-Dame du Puy, Notre-Dame de Bonne Bénédicte, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima. Comment comprendre ça? En réalité, Marie est si proche de nous, et elle nous aide à être si proche de Jésus, que nous avons la grâce, dans le sillage de nos pères, dans la foi, de pouvoir nous l'approprier, comme un membre de notre famille, comme une personne importante dans les lieux où nous vivons, dans les lieux où nous rendons en pèlerinage. Marie est celle qui est infiniment proche de Dieu et de Jésus, son Fils, notre Sauveur. Nous pouvons l'invoquer comme Notre-Dame de Nazareth, le lieu de l'Annonciation dont nous venons d'entendre le récit. Notre-Dame de Bethléem, le lieu de la Nativité. Notre-Dame de Cana, le lieu du premier signe accompli par Jésus sur les instances de sa mère. Notre-Dame du Calvaire, Marie debout au pied de la croix. Notre-Dame de vie, Marie qui, dans son cœur, a adhéré sans crainte et sans réserve à la bonne nouvelle de la victoire des ressuscités sur le péché et sur la mort. Et Marie, si proche du Père, si proche de Jésus, si proche de l'Esprit, Notre-Dame du Sénat, est infiniment proche de chacun d'entre nous, que nous la vénérions ici, ou à Boulogne, ce grand sanctuaire, cet autre grand sanctuaire de notre diocèse, dont l'existence a été la pierre de fondation de la ville de Boulogne, il y a exactement 700 ans. Et puis, Notre-Dame du Puy, Notre-Dame de l'eau, Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame du Lot, tant de lieux moins connus dans tous les diocèses de France, Notre-Dame du Chêne, dans la Sarthe, Notre-Dame de ceci, de cela, partout. Marie est tellement proche de nous. Par la liturgie qui nous rassemble aujourd'hui, nous ne sommes pas tiraillés entre deux images de Marie, nous sommes réconfortés de la savoir si proche de nous et de la savoir aussi si proche de Dieu pour nous mener à elle. Alors parlons un peu de Notre-Dame du Puy. Vous venez d'avoir un exposé historique sur le détail duquel je ne vais pas revenir, mais je voudrais signaler trois choses qui me semble particulièrement touchant. D'abord, ce qui donne la date des jubilés au Puy, qui ont lieu 2, 3 ou 4 fois par siècle, quand, vous le savez, l'Annonciation, le 25 mars, tombe un vendredi saint. Il y a eu un jubilé il y a 2 ou 3 ans, je crois, et il y en a eu un autre une dizaine d'années auparavant. Le prochain sera
2157.
En 2157. Je ne suis pas sûr que nous pourrons tous participer. J'ai pour ma part la joie de participer, de prendre la parole aussi lors de précédents jubilés. Et vous voyez cette coïncidence entre l'Annonciation et le vendredi saint. L'Annonciation, c'est le mystère joyeux. de Marie qui apprend qu'elle est appelée à devenir la mère du Sauveur. Mais elle n'est pas simplement appelée à avoir un petit enfant. Elle est appelée à donner au monde le Sauveur. Celui qui, par sa croix, va transformer l'histoire du monde. Qui, par sa croix victorieuse, va délivrer le cœur humain du péché, de la haine, et ultimement de la mort. Cette coïncidence entre le Vendredi Saint et l'Annonciation qui scande de manière si aléatoire les jubilés du puits dit quelque chose de très profond sur Marie, sur le Christ, sur notre salut. La bonne nouvelle de l'Annonciation, c'est le salut par la croix. La deuxième chose qu'il voudrait dire à propos du puits, c'est évidemment sa place sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et l'ancien évêque du Puy, mort maintenant, Mgr Henri Blancard, a fait énormément pour que le Puy soit toujours davantage le lieu de départ du pèlerinage vers Saint-Jacques. Il présidait à la cathédrale la messe pèlerin à 7 heures tous les matins, très souvent, accueillant des hommes et des femmes qui n'étaient pas très sûrs d'être des pèlerins, même s'ils prenaient le chemin de Saint-Jacques à pied, et qui, par l'accueil de la cathédrale, des religieuses, de l'évêque, l'envoi en mission, un chapelet, une attention de prière, commençaient déjà à devenir pèlerins. Je l'ai vu cela plusieurs fois, avec beaucoup de bonheur et de bienfaits intérieurs, non seulement pour moi, mais aussi pour les groupes parfois composites que j'accompagnais sur le chemin de Saint-Jacques. Il y a des foules et des foules d'hommes et de femmes, croyants du monde, motivés sur le plan spirituel du monde, qui continuent de passer au puits pour partir vers Saint-Jacques. L'intercession de Marie, Notre-Dame du Puy, les accompagne en dépit même de ce qu'ils peuvent en comprendre. Et beaucoup, grâce au chapelet qu'il leur est donné, au pied de la femme de puits, découvrent que Marie va les accompagner. Même ceux qui ne connaissent pas encore Jésus ont déjà été présentés à Marie. Et quand on a été présenté à Marie, on est sur un bon chemin pour aller vers Jésus. Voilà la deuxième dimension du puits que je voulais souligner. La troisième. Au puits, il y a la Vierge Noire, dont l'admirable cathédrale, dont l'escalier qui passe directement, un grand escalier jusqu'à l'autel, a été restauré, notamment à l'initiative de Mgr Blancard. Mais il y a aussi la grande statue de Notre-Dame de France, qui domine la ville, et dont les 150 ans, je pense, ont été célébrés très solennellement. Il y a quelques années, j'avais aussi eu l'occasion de participer à cet anniversaire. Cette grande statue, elle a été fondue grâce au canon de la guerre de 1870. C'est notre ère de France, c'est notre ère de la paix. Et il nous semble heureux quand on passe au puits, bien sûr, mais aussi quand on pense au puits, de pouvoir confier à Marie notre pays, la paix du monde, et bien sûr, en cette nouvelle élection européenne, nous pouvons prier Marie pour l'Europe. Vous savez que le drapeau européen, c'est la couronne de 12 étoiles de la Vierge Marie, telle qu'elle a été révélée dans l'Apocalypse de Saint-Jean. Marie, infiniment proche de nous, infiniment proche du Seigneur, Marie au puits, celle qui accepte d'être la mère du Sauveur, la mère des pèlerins, la mère de la France, de l'Europe, de la paix. Dernier mot encore. Notre-Dame de Bonne Délivrance et Notre-Dame du Puy ont en commun d'être des vierges noires. Noires sans doute en raison de la teinture du bois dans lequel elles ont été sculptées, parfois aussi de l'usure des cendres, de la fumée de l'encens, de la fumée des cierges, bref, de tous ceux qui ont prié devant elles Marie qui annonce aussi, dans notre occident médiéval, l'universalité de l'Église et la présence de sœurs africaines, une telle grâce pour nous ici, à Saint-Thomas-Villeneuve. Et puis, vous savez peut-être, en écho au Cantique des Cantiques, Nigra sous cette forme aux arabes, je suis noire, je suis belle. Les spirituels ont compris la Vierge noire comme celle qui est porteuse de la souffrance du monde, parfois du péché du monde. Non pas de la noirceur de la peau qui est si belle, mais de la noirceur des cœurs. Et Marie porte tout cela pour ouvrir un chemin de grâce, un chemin de paix, un chemin de réconciliation. Nous pensons à cela devant notre âme de délivrance, notre âme de puits, mais aussi notre âme de cadeau, et aussi ce dont nous avons pensé, notre âme de Jessica au cours de la vie. Aujourd'hui, il y a tant de noirceurs dans la vie du monde, dans la vie de l'Église aussi parfois, nous le savons. Et les premières réponses à la noirceur du monde, à la noirceur de l'Église, c'est de tourner toujours vers Marie. Elle qui est migra, cette formose, elle qui ne cesse de nous tourner vers la source de la pureté, la source de la beauté, son Fils, Jésus, notre Sauveur.